VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
C'est l'heure à Bamako, 19h à Kigali. Bienvenue à notre journal. Actualité aux États-Unis. La convention du Parti démocrate commence à l'instant au Wells Fargo Center de Philadelphie. Les démocrates vont y sacrer Hillary Clinton comme candidate à la présidentielle de novembre. Et l'ex-secrétaire d'État sera la première femme à être investie à ce poste par l'un des deux grands partis américains. Les détails avec Tatiana Mosso, notre envoyée spéciale à l'Arena du Wells Fargo Center.
Au sein de l'Arena, défilent des représentants de toutes les communautés et de toutes les catégories sociales. Les vétérans et les familles de militaires, les membres de syndicats, des communautés noires, hispaniques ou encore amérindiens. Des rencontres importantes, notamment pour les plus sceptiques. C'est véritablement la fin de journée qui sera le point d'orgue de cette première journée de convention. Avec les discours de Elizabeth Warren, sénatrice du Massachusetts, elle vient de l'aile progressiste du parti et est un vrai soutien pour Bernie Sanders. Puis sera suivi le discours de Astrid Silva, une farouche activiste de la communauté latino, le très attendu discours de la première dame, Michelle Obama, et le dernier à prendre la parole sera le sénateur du Vermont et ancien rival de Hillary Clinton, Bernie Sanders. Un Bernie Sanders qui jouit d'une véritable cote de popularité, comme on a pu le voir depuis hier dans les rues de Philadelphie, avec ses irréductibles supporters qui ont du mal à être convaincus par Hillary Clinton. Certains ont traversé tout le pays, depuis la Californie, et annoncent déjà qu'ils ne voteront pas pour l'ancienne première dame, qui se verrait bien devenir à nouveau locataire de la Maison Blanche le 8 novembre prochain. Tatiana Mosso à Philadelphie pour VOA Afrique.
L'Afrique maintenant, le sommet de la Ligue arabe s'est ouvert à Nouakchott en Mauritanie. Seuls 6 chefs d'État ont fait le déplacement. Ce sommet annuel a été ramené à un jour au lieu de 2. Claire Morin-Gibault.
Les émirs du Qatar et du Koweït, les présidents du Yémen, du Soudan, des Comores et de Djibouti sont sur place à Nouakchott. Le Tchadien Idriss Déby Itno est invité en tant que président en exercice de l'Union africaine. Les deux poids lourds de la Ligue arabe n'ont pas fait le déplacement. Le roi Salman d'Arabie Saoudite est absent pour raison de santé et l'Égyptien Abdel Fattah al-Sissi n'est pas venu pour cause d'agenda chargé. Dans son discours, le premier ministre égyptien Chérif Ismaïl a appelé à une stratégie arabe de lutte contre le terrorisme. Mohamed Ould Abdelaziz, l'hôte de ce sommet, a dénoncé la violence aveugle des terroristes et les interventions extérieures qui alimentent l'instabilité. Idriss Déby Itno a de son côté salué le principe de la création d'une force arabe commune. La création de cette force avait été lancée au dernier sommet de la Ligue en mars 2015 à Sharm el-Sheikh, mais depuis, les pays arabes n'arrivent pas à se mettre d'accord.
Au Nigeria, le mouvement pour l'émancipation du Delta du Niger, le MEND, a annoncé avoir entamé un dialogue avec le gouvernement. Ce groupe est connu pour ses attaques contre des installations pétrolières dans les années 2000 dans le Delta du Niger. Un autre groupe rebelle, les Vengeurs du Delta du Niger, qui a revendiqué l'essentiel des attaques depuis février, refuse jusqu'à présent d'entamer des pourparlers avec les autorités nigérianes. En RDC, la coalition de l'opposition que préside Étienne Tshisekedi rejette le projet de dialogue du facilitateur de l'Union africaine, Edem Kodjo, et le recuse même en personne. Un extrait de la déclaration en ce sens, lu par Martin Fayoulou, un membre du comité des sages de l'opposition. On l'écoute.
Nous étions à Bruxelles avec les autres membres de la communauté internationale le 9 juillet et nous nous sommes mis d'accord sur certains préalables pour l'organisation des pourparlers selon la résolution 2277. Et nous nous sommes mis d'accord que le groupe de soutien s'est transformé en groupe de facilitation. On n'a pas un facilitateur, mais on a un groupe. Nous nous sommes mis d'accord qu'on n'avait pas besoin d'un comité préparatoire, que ce groupe de facilitation devait conduire des réunions avec les deux parties prenantes, c'est-à-dire le pouvoir en place et le rassemblement, et afin de nous proposer un ordre du jour. Mais subitement, M. Kodjo décide que le comité préparatoire va commencer ses travaux sans consulter le membre du rassemblement. Et nous disons, trop, c'est trop, Monsieur Kodjo ne veut pas respecter l'opposition congolaise. Monsieur Kodjo travaille visiblement pour satisfaire Monsieur Kabila, pour avoir confiance à un tel monsieur. Et c'est pour cela que nous le récusons.
Martin Fayoulou, un membre du comité des sages de l'opposition. Propos recueillis par Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Burundi, le journaliste Jean Bigirimana, qui travaille pour le groupe de presse Iwacu, est porté disparu depuis vendredi dernier. Il aurait été arrêté par des agents des services de renseignement burundais et conduit à la prison de Muramvya. Mais la police déclare ne pas être au courant de cette affaire et on ignore tout pour le moment sur son lieu de détention et les mobiles de son interpellation. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Depuis vendredi dernier, Jean Bigirimana, ancien journaliste de la radio CNDD-RMA FM, recruté récemment par le groupe de presse Iwacu et qui a travaillé pour Info des Grands Lacs, il est porté disparu. Il aurait été arrêté par des membres des services de renseignement burundais dans l'après-midi. Ni sa famille, ni sa femme, personne ne connaît où ce journaliste a été conduit après son arrestation. Il avait dernièrement participé à un stage de formation au Rwanda. Des sources proches de la famille affirment qu'il lui serait reproché d'avoir effectué des avait au Rwanda. Jean-Bigirimana a fait un reportage sur la vie des journalistes burundais exilés dans ce pays des mille collines qui est pointé du doigt par le gouvernement d'être de mèche avec les putschistes du 13 mai de l'année dernière, mais aussi de les abriter. Le vice-président de l'Observatoire de la presse au Burundi, Léandre Sikuyavuga, condamne l'arrestation de ce journaliste et déplore un tel acte. Jean-Bigirimana est également le neveu de l'ancien porte-parole du président burundais, Léonidas Hatungimana, un frondeur qui a condamné le troisième mandat du numéro 1 burundais et qui vit aujourd'hui en exil dans un pays européen. Le Conseil national de la communication est déjà alerté de l'arrestation du journaliste du groupe de presse Iwacu. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En Centrafrique, les trois otages de Baboua dans l'Ouest, à savoir le sous-préfet de la ville Robert Thora, le maire David Barbour et le pasteur de l'église apostolique Clotaire Mbosso, enlevés depuis plus de 12 mois par des hommes armés non identifiés, ont finalement été libérés samedi et remis sains et saufs aux autorités centrafricaines. Le groupe rebelle d'Abdoulaye Miskine, très actif dans la région, a joué un rôle important dans cette libération. Félix Yepasi Zembo a joint Frédéric Wagonda, le préfet de la Nana Mambéré, dont fait partie la localité de Baboua.
Trois ont été libérés depuis samedi à 7h45. Je les ai amenés à Bangui et c'est ce matin qu'ils ont eu audience avec le ministre de la Gestion du Territoire, avec le Premier ministre et enfin, ils viennent de finir avec le chef de l'État.
Monsieur le Préfet, quelles ont été les conditions de cette libération?
Personnellement, il n'y a aucune condition, je le dis bien, il n'y a aucune condition.
Mais dit-on que le FDPC de Abdoulaye Miskine a été très actif dans cette libération, est-ce exact?
C'est exact, parce que ce sont les éléments de FDPC qui ont mené l'opération pour libérer les otages.
Il s'agit donc là d'une opération militaire pour leur libération?
C'est très militaire, hein, parce que eux-mêmes, ils refusent de nous donner les détails, mais en tout cas, c'est une opération très bien préparée et qu'ils ont fait, ils ont réussi à libérer les otages.
Ces otages, M. le Préfet, comment se portent-ils psychologiquement?
Et en tout cas, psychologiquement, ils ont le moral. Ils se rappellent de temps en temps des 369 jours de captivité. En fait, ils ont le moral.
Frédéric Wagonda, préfet de la Nana Mambéré en Centrafrique. Au Congo-Brazzaville, l'opposant congolais Paulin Makaya, leader d'une petite formation politique UPC, Unie pour le Congo, a été condamné aujourd'hui à 2 ans de prison ferme et 2,5 millions de francs CFA d'amende pour incitation au trouble à l'ordre public après avoir organisé et participé à une manifestation non autorisée. Ses avocats ont rejeté le verdict, le qualifiant de jugement injuste et illégal. Nous allons faire appel conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, a déclaré l'un d'entre eux, Maître Yvon-Éric Ibwanga. Paulin Makaya a été considéré comme un détenu politique par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme. Les autorités congolaises l'ont accusé d'avoir organisé et participé en octobre 2015 à une manifestation non autorisée contre le référendum constitutionnel ayant permis au chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, de se présenter à la présidentielle de mars, qu'il a remportée. Et pour terminer, Kofi Olomide ne pourra pas se produire à la semaine prochaine dans le salon de l'agriculture à Lusaka. Les autorités zambiennes ont décidé dimanche d'annuler un concert du célèbre chanteur congolais parce qu'il a donné un coup de pied à l'une de ses danseuses au Kenya.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.